Ouais, non, mais voilà.
Super, bonjour à tous. Ah, c'est toujours un plaisir d'être là. Et puis, merci à votre temps de louange, d'adoration. C'était le ciel ouvert. Merci. Je voulais commencer par rappeler et revenir sur l'événement qu'on a vécu ensemble ici, le 17 février, avec le groupe Rescap, vous dire à quel point ça a été une soirée bénie et vous encourager, parce que moi j'ai été personnellement très encouragé. J'avais invité des gens qui sont tous venus. Il y a eu de belles surprises, des gens qui sont entrés dans un processus de guérison suite au témoignage des uns et des autres. Pour ceux qui n'étaient pas là, Rescap, c'est donc un groupe de jeunes, une trentaine d'années, de 20 à 30 ans et plus, qui parcourent toute la France et qui donnent leur témoignage de comment Dieu a agi dans leur vie, dans des choses très pratiques, très concrètes, comment des gens ont été libérés d'addiction, de la drogue, de la colère, des désordres alimentaires, de la pornographie, de l'alcoolisme. On a eu des témoignages comme ça en cascade, assez bouleversants, je dois dire, très puissants et réels, étonnants, et ça encourage parce qu'on voit que Dieu agit, et il agit de façon puissante. Il y a notamment deux témoignages qui m'ont particulièrement touché, c'est cette sœur qui, bien une famille chrétienne, a fait des mauvais choix depuis les années collège, et puis qui ensuite est partie au loin vivre sa vie, ses plaisirs, comme elle disait, et elle a fait continuer à faire de mauvais choix, et sa vie était en ruine, on peut dire, après 18 ans. Ses parents ont prié pour elle pendant 18 ans pour qu'elle revienne à Dieu, et elle a fait des choses qu'elle a regrettées, elle est même tombée enceinte, elle a avorté, et puis ensuite son compagnon était violent, elle a vécu la violence, etc. Et elle est revenue chez ses parents à l'occasion c'était une réunion de famille, et là ses parents ont prié pour elle, prié avec elle, et là elle s'est vraiment repentie de ses péchés, elle a vraiment découvert le Seigneur, et elle témoignait, quoi. C'était assez puissant. Et puis cet autre témoignage, c'est de cette autre dame qui, à l'âge de 5 ans, elle racontait qu'elle ne se sentait pas bien dans son corps. C'était une fille, elle se sentait garçon. Et puis elle a bataillé avec ce problème d'identité pendant des années et des années, jusqu'au moment où, de l'âge adulte, là, elle a fait le choix de devenir un garçon. Alors, on est dans les années 90, la transition de genre n'était pas aussi commune qu'elle l'est maintenant. Mais elle souffrait, c'était une souffrance terrible en elle, une souffrance terrible, terrible. Et elle s'était mise en couple même avec une femme, etc. Et puis les parents, parce qu'elle faisait une famille chrétienne, les parents priaient pour elle. Et elle racontait comment un jour, alors que ses parents étaient là et priaient pour elle, elle a reçu une parole de vérité du Seigneur. Alors, je me souviens plus exactement la parole, mais en substance c'était « Je t'aime, mais je suis pas d'accord avec ton orientation ou ton choix ». Et c'est une parole qui l'a bouleversée, qui a brisé en elle un lien, une chaîne. Et cette femme, petit à petit, est entrée dans un processus, ça a été un processus qui a duré une dizaine d'années, de reconquête de son identité féminine. Et elle montrait d'ailleurs les photos d'elle, comment elle était entre guillemets entre garçons et ce qu'elle était devenue, et c'était fort, parce que après j'ai pu parler avec elle, et puis je disais, mais waouh, dis-moi un petit peu plus, et c'était tellement fort. Elle disait, oui, c'est une réalité que le Seigneur m'a restauré dans mon identité féminine. Elle était jolie d'ailleurs, elle avait un joli sourire, un petit rouge à lèvres, elle était belle. Il disait, c'est encore parfois difficile, tout un travail, mais j'ai gagné cette liberté en Jésus. Et ça, Ça m'a beaucoup encouragé. Et ce qui m'a aussi beaucoup encouragé, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont venus et j'avais invité le fils d'une sœur de notre église qui est toxicomane, qui est accro à la cocaïne. Il est venu, il a entendu les témoignages et ça c'était très positif. J'ai aussi invité un gars qui est addict à l'alcool. Il est venu, il a entendu, on a prié pour lui et là actuellement il est en addictologie dans un processus de soins. Merci Seigneur et pourrait prier pour lui, il s'appelle Jonathan, l'autre s'appelle Emmanuel. Et ça c'était super. Et puis cerise sur le gâteau, je prie maintenant depuis un certain temps pour toute une famille dont les grands-parents sont à l'église, la famille da Silva, et ils sont venus. Et il y avait c'est une famille, lui c'est un pasteur, un ancien pasteur qui vit une souffrance, une difficulté, et puis il y a son fils autiste qui est venu et vous avez prié pour lui et Quentin, et il se passe quelque chose dans cette famille. Il y a un travail de restauration dans cette famille depuis Rescap, quoi. Donc je voulais vous dire, soyez encouragés par ce travail, par ce bel événement qui a déclenché, et je pense qu'il y a peut-être même des témoignages parmi nous, qui a déclenché des plein de belles choses chez les uns et chez les autres, et que le Seigneur en soit glorifié et remercié. Et ces événements me font penser que finalement ce que a été mis en lumière pendant ces événements, cette soirée de rescapé, c'est que c'est des gens, hein, que ceux qui ont parlé et puis même ceux qui écoutaient ont été touchés quoi ? Ils ont été touchés par la vérité. Ils ont été touchés par la grâce, et cela les a conduits à la liberté. Et c'est le message de ce matin pour nous, c'est que vérité plus grâce, c'est le cocktail libérateur pour l'humanité. Vérité plus grâce, c'est le cocktail libérateur pour l'humanité, pour nous. Et c'est ce que les gens ont vécu et c'est ce que je voudrais ce matin vous partager. Alors, je vais prendre comme base de ce message l'évangile de Jean. J'aime beaucoup l'évangile de Jean. Au chapitre 8, c'est un passage que l'on connaît bien. C'est Jésus qui rencontre un groupe de gens et une femme prise en flagrant délit d'adultère. Nous sommes au chapitre 8, à partir du verset 3. Donc Jésus est dans le temple, non, il est sur la montagne des Oliviers. Il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et il les enseignait. Voilà, Jésus est dans le temple, c'est un rabbin. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Au passage, c'est pas que la femme, hein, c'est aussi l'homme. Hein. Dans le Lévitique, c'est l'homme et la femme. Bon, passons ce détail. Moïse en sa loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ici, nous voyons à l'œuvre trois choses. Et ces trois choses sont annoncées dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, où Jésus est présenté comme la lumière du monde, la parole faite chair, lumière du monde, qui annonce vie, quoi ? La vérité et la grâce. Et on voit dans cette rencontre de Jésus avec cette femme, mais aussi avec tous ces hommes, ces accusateurs, la grâce et la vérité qui produit la libération, la liberté. Alors, c'est une situation que les hommes accusateurs ont choisi pour coincer Jésus. Le texte nous le dit, ils veulent le piéger, le mettre en porte-à-faux par rapport à la loi. Et ces hommes de loi, ces pharisiens, leur argument massue, leur argument majeur, c'est la loi de Moïse. Il est écrit. Et c'est effectivement un verset que vous trouvez dans le Lévitique, au chapitre, je ne sais plus que vous le trouverez au Lévitique, où effectivement l'homme et la femme pris en flagrant d'adultère méritent la mort. Donc, se basant sur ce verset, sur cette loi donnée à Moïse par Dieu, voilà, donc c'est une loi, cette femme mérite la mort. Voilà la vérité. C'est une vérité. Et c'est une vérité qui tue. Une vérité qui tue. Et là, j'apprécie la façon dont Jésus agit. Il commence par se baisser et se taire. Et ça en dit long sur l'attitude de Jésus. Moi, ça me parle de son humilité. On dit dans Matthieu que c'est un homme doux et humble de cœur. Et le fait qu'il soit baissé et qu'il se taise, ça nous montre que ce Jésus est un homme plein d'humilité. Il est humble et il se tait. Et puis, je ne sais pas ce qu'il écrit avec son doigt. Ça, c'est un détail aussi intéressant. Il écrit quelque chose sur le sol avec son doigt. Et petit détail aussi intéressant, ça nous rappelle que Moïse, quand il est descendu de la montagne avec les tables de la loi, les lois ont été écrites par le doigt de Dieu sur des tables de pierre. Détail intéressant, Jésus écrit avec son doigt sur le sol. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il peut bien écrire ? Qu'est-ce qu'il peut bien écrire ? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais peut-être qu'il a écrit un mot. Et ce mot, c'est vérité. Je vois écrire vérité. Et je ne l'invente pas parce que le prologue de Jean nous dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Alors moi, je crois que le premier mot que Jésus a écrit sur le sol en se taisant, c'est le mot vérité. Et là, on peut l'imaginer en train d'écrire vérité, et il se tait. Et puis après, ça c'est moi qui l'ajoute, il prend un caillou, il se lève et il dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Il se baisse à nouveau. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tous les hommes s'en vont, à commencer par, accusés par leur conscience, nous dit le texte, à commencer par les plus anciens. Ils s'en vont. Et au passage, s'il y en a un qui aurait pu jeter la pierre à cette femme, c'est qui ? Ben lui, hein. Que ceux qui sont sans péché lui jettent la première pierre. Lui, il était sans péché, il aurait pu lui jeter la première pierre. Mais il la jette à terre. Il se relève, il est seul à seul. Ah oui, alors, il est réécrit sur le sol. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il peut écrire ? Quel est le mot qu'il écrit sur le sol ? Et le sol, c'est notre humanité, hein. Qu'est-ce qu'il écrit ? Exactement. Il écrit grâce. Exactement. Il se relève, il est tout seul devant cette femme et il lui dit ces paroles: où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Voilà, vous avez la manifestation, l'illustration de qui est Jésus et de ce qu'il fait. Il dit la vérité, et c'est une vérité qui libère, et il fait preuve de grâce. Et la vérité, ici, c'est que cette femme a péché. Oui, il n'est pas en train de l'excuser. Vous remarquerez que c'est pas la vérité comme une sorte d'atténuation, c'est pas grave, tout le monde a péché, allez, on ira tous au paradis selon la chanson. C'est pas ça que Jésus lui dit. Il lui dit, va, ne pêche plus. Il met des mots sur le problème. Oui. Et la vérité de Jésus, c'est de dire la vérité. Et c'est une vérité qui libère. Et je pense justement à Jonathan qui est venu ici à Rescapé et qui se débat maintenant contre l'alcool. C'est une vérité qu'il a jamais voulu entendre. Quelqu'un que je connais depuis un certain temps. Et je lui disais, Jonathan, il faut arrêter de boire. Ton problème, c'est ça, c'est l'alcool. Il faut arrêter de boire. T'es dans le déni. Non, je gère, pas de problème, etc. Et il a fallu que voilà, son couple se brise, que sa compagne s'en aille, qu'il soit dans les dettes, qu'il soit au fond du trou, pour reconnaître que oui, j'ai un problème. Et maintenant, le discours, il est différent. Vous voyez ? La vérité le concernant, il était capable de l'entendre. Voilà, il était capable de l'entendre là, maintenant. Et la parole de Jésus, c'est toujours une parole de vérité qu'on a besoin d'entendre. C'est jamais la même parole pour les uns et pour les autres. Dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus, dans ses rencontres, il dit un certain nombre de paroles aux uns et aux autres. Et c'est pas les mêmes paroles. C'est pas des paroles automatiques. À la femme samaritaine, il lui dit, j'ai envie de dire ses quatre vérités, il lui dit, bah oui, les cinq bonhommes avec qui tu vivais, c'est pas tes maris. Celui avec qui tu vis, c'est pas ton mari non plus. La femme a dit, il m'a dit ma vie. Est allé dire aux gens du village. À Nicodème, il a dit d'emblée, tu dois naître de nouveau. Voilà, Nicodème avait besoin d'entendre cette parole. Au paralytique depuis 38 ans, chapitre 5, il lui dit, mais veux-tu être guéri? Voilà une question. Mais c'est une parole qu'il avait besoin d'entendre. Et à chaque fois, Jésus nous dit, qui a déjà entendu pour soi une parole de Jésus pour lui? Enfin, moi, je suis le premier. Qui a déjà entendu une parole qui vous était adressée à vous? Soit directement, soit par quelqu'un, soit en lisant un texte, soit par une circonstance, soit par une pensée, où Dieu vous parlait et vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre une parole de Dieu pour moi. Et donc la vérité a cette capacité de nous rendre libres. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit hein, dans le chapitre 8, vous verrez au verset 30, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est une vérité toujours rencontre, c'est une rencontre, la vérité c'est une personne, hein, je suis la vérité. Et au verset 36, il est dit, c'est Jésus qui dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La vérité, c'est pas une idée. La vérité, c'est une personne. C'est une personne qui vous dit la vérité. Et c'est Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Comme cette sœur, je crois que c'est Anne, son prénom. Oui, je crois que c'est Anne. Où elle a entendu cette parole qui peut nous paraître banale, voire même blessante. Je t'aime, mais ce que tu fais, je suis pas d'accord avec toi. Vous voyez? Et c'est une parole qui l'a libérée et qui l'a fait entrer dans un travail de reconquête de son identité. Voilà la parole de Jésus pour chacun d'entre nous. Et tout à l'heure, il y a eu une parole qui a été donnée par Robert. C'est une parole si je pense qu'une personne doit se saisir de cette parole qui lui a été donnée spécifiquement pour elle. Donc c'est une parole de vérité, mais c'est pas une vérité qui tue. Contrairement à la loi écrite avec le doigt de Dieu, c'est une vérité qui tue. Pourquoi ? Parce que elle est impossible à mettre en pratique. Et c'est ça le problème. C'est impossible à mettre en pratique, à les mettre en pratique les 10 commandements. Ben bon courage. C'est pour ça qu'on a besoin de la deuxième chose, c'est la grâce. C'est la grâce. Et la grâce, c'est quoi ? Je ne te condamne pas non plus. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas. La grâce, c'est tu n'as pas besoin de payer l'addition. En gros, c'est ça. Je l'ai fait à ta place. Et tu ne le mérites pas. Mais je te fais grâce. Voilà. Et quand il y a la grâce avec la vérité, ça produit la libération. Mais si c'est la vérité toute seule, ça produit l'inverse de la libération, ça produit la culpabilité, parce qu'on ne peut pas y arriver. C'est impossible. C'est impossible. Mais si il y a la grâce avec la vérité, alors c'est possible. Et si c'est la grâce sans la vérité, c'est une supercherie. Désolé. C'est mentir. Je dirais même c'est mentir. C'est mentir. Jésus, moi je le vois dans sa façon d'agir et de parler, il met les gens devant leurs responsabilités. Il met les gens devant leurs responsabilités, devant les choix. Va, ne pêche plus. Mais non, va, ne pêche plus. Je t'ai libéré. Tes accusateurs sont plus là. Tu es libéré de ton péché. Maintenant, choisis de ne plus pécher. Vous voyez ? La vérité et la grâce la rend capable d'être libéré du péché. Et ça, c'est le troisième aspect, c'est la libération. Qu'est-ce qui se produit quand Jésus fait preuve de vérité et de grâce vis-à-vis de quelqu'un? Il se produit dans la personne, comme on l'a chanté, il brise une chaîne. Le Seigneur brise une chaîne. Ici, en l'occurrence, cette femme a été libérée de ses accusateurs. Mais intérieurement, elle a été libérée de sa culpabilité et libérée de son lien au péché. Parce que ce dont il veut nous libérer, c'est de l'emprise du péché dans notre vie. Et il faut être courageux et appeler un chat un chat. Quand il y a péché, il y a péché. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et Jésus, il ne tourne jamais autour du pot. Il dit les choses avec amour et avec vérité. Là, c'est pas bien. Là, tu déconnes. Là, il faut changer. Amen. C'est ça. Connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et de quelle liberté s'agit-il? Et c'est pour moi d'abord une liberté intérieure. Je discutais pas plus tard que vendredi avec un détenu. Ben, vous le savez, je vais en prison et au passage, je vis de très 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 belles choses. C'est absolument incroyable l'écoute que j'ai des prisonniers, mais vraiment une écoute. Il est vrai qu'ils me sollicitent, il est vrai qu'ils ont du temps à perdre et que quelque part, enfin pas que moi, il y en a d'autres d'aumôniers, on est là pour entre guillemets occuper un temps de leur emprisonnement. Mais je note quand même une véritable écoute, une véritable. Et puis beaucoup sont touchés. On a des centres, on appelle ça des cercles bibliques, un samedi sur deux. Et c'est impressionnant de voir comment les uns et les autres sont touchés. Alors, plusieurs pleurent, les gens sont, waouh, on sent la présence de Dieu d'une façon assez incroyable. J'avoue que je suis étonné de ce que Dieu, et merci pour vos prières, parce que c'est vraiment beau ce qu'on vit en détention, en prison. C'est vraiment exceptionnel. Dieu est en train de faire un travail incroyable chez ces détenus. Et j'ai discuté avec un détenu, un homme de, c'est un malabar, il vient pas des Antilles, il vient de La Réunion, c'est un homme très costaud comme ça. Et il est assez impressionnant physiquement. Et puis je lui disais, mais tu sais, il s'appelle Julien, tu sais ce que le Seigneur veut, parce qu'il est un arrière-plan croyant, à La Réunion ils allaient dans des cultes, il me dit, tu sais Julien, ce que le Seigneur veut faire, c'est te libérer de l'intérieur. Parce que si on réfléchit bien, c'est quand même ça que Dieu veut faire. Il veut nous libérer à l'intérieur. Parce que tout commence à l'intérieur. D'accord ? Dans nos pensées, dans nos... Les liens, ils sont d'abord intérieurs. Et Jésus, il est venu pour libérer notre intériorité. La libérer de quoi ? Du mal. Parce que c'est ça. Du péché. Et je disais à ce détenu, tu peux, tu es en prison et tu payes ta dette là, d'accord ? Mais tu peux vivre la liberté intérieure. La liberté intérieure. Et tant qu'on n'a pas vécu la liberté intérieure, qu'on ne trouve qu'en Christ, on peut être à l'extérieur, on peut être dehors et vivre normalement et être enchaîné, être en prison. C'est paradoxal, hein ? Mais toi, tu es en prison... Et tu peux vivre cette liberté, cette libération intérieure. Et ça, je voudrais attirer votre attention sur cela. C'est que le Seigneur veut nous libérer. Hein, on le dit hein, dans notre Père, délivre-nous du mal. Le Seigneur veut nous libérer de tous nos liens intérieurs, de tout ce qui nous empêche de devenir nous-mêmes dans le fond. Parce que si je reprends le témoignage d'Anne, elle vivait dans un mensonge qui l'empêchait d'être elle-même. Et le Seigneur veut, en te libérant, que tu deviennes ce que tu es, glorifié en Christ. Le projet de Dieu, c'est absolument incroyable. C'est un projet d'un infini respect. C'est que les personnes qui se donnent à lui deviennent enfin ce qu'elles sont. Enfin ce qu'elles sont, ce pourquoi elles ont été créées, et qu'elles puissent développer pleinement leur potentiel. Que l'ennemi a essayé et parfois réussi à détruire par le péché, par les liens, par toutes sortes de mauvaises choses. Et donc cette libération, elle est possible en Jésus. Et je terminerai par dire que cette libération, c'est pas seulement un acte, cette liberté, c'est pas quelque chose qui est acquis par un acte de libération, oui, mais c'est après un héritage, c'est quelque chose qu'il faut conserver, maintenir et entretenir. Et je terminerai par cette parole que vous trouvez dans les Galates. C'est Paul qui dit ceci au chapitre 5, au verset. Alors, il y a deux versets. Galates 5, verset 1, d'abord. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est ça la mission de Christ. C'est ça la mission de Christ. C'est de nous rendre libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On pourrait dire ça autrement et dire, vous avez été libérés, restez fermes, ne vous faites pas voler votre liberté par l'ennemi. Gardez-la. Et, c'est pas tout, verset 13, Paul renchérit et il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Il le dit une deuxième fois. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair ou selon les désirs naturels. Autrement dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour faire ce que vous avez envie de faire. Mais, et là je vais rejoindre la parole d'Annette de tout à l'heure. Mais rendez-vous par amour, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Nous avons été libérés par Jésus pour être libres et nous servir les uns les autres par amour. Libérés pour servir. Amen. Seigneur, je te prie que ces paroles puissent faire leur travail dans nos cœurs. C'est pas seulement de belles paroles, Seigneur. C'est des paroles que par ton esprit peuvent devenir vérité et vie. Seigneur, que les choses qui ont été mises à la lumière puissent produire le fruit attendu dans nos vies, dans nos intériorités. Je prie pour que la liberté soit totalement et complètement notre lot. Et je vous invite les uns et les autres, si tel aspect de votre liberté a été volé, de la reconquérir en Jésus. Amen.